les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Il y a des rencontres qui marquent une vie, des personnes que l'on croise un jour et qui deviennent des piliers, des êtres essentiels avec lesquels on se comprend en quelques mots ou mieux encore, juste avec un regard. Ces rencontres se produisent un jour dans le quotidien ou la vie professionnelle. Il y a des événements qui détruisent des vies. Quand soudain un pays décide d'entrer en guerre, c'est tout qui bascule. Antithèse de l'humanité, antipode de la magie des rencontres humaines, qu'est-ce qui pousse des hommes à renoncer à leur humanité? C'est l'une des questions que nous poserons. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
C'est une incroyable rencontre qui a construit un duo français connu dans le monde entier. Pauline Guénat et Anne-Sophie Jeanne racontent l'histoire de Daft Punk avec plein d'anecdotes. Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013, publie son nouveau roman, Un événement en librairie. Il entame un nouveau cycle avec un feuilleton littéraire qui croise les destins entre le Liban et l'Indochine de la fin des années 40. Vous entendrez aussi Jacques Attali dans notre séquence Livre de poche pour un roman de 2014 qui annonçait la guerre en Ukraine. Il sera aussi avec nous pour réagir. Les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront bien sûr tout au long de cette émission. Bonjour Mike Viennot.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Monet et vous représentez donc le Canada. Tout va bien pour vous Mike?
Ça va très bien. Un peu froid aujourd'hui, mais ça va très bien.
Ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Ouais. En France, c'est Sophie Todescato de la librairie Les Temps Modernes à Orléans. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Comment se porte votre librairie en ce moment?
Écoutez, ça va, on attend le printemps.
Bon, tant mieux. Ça marche, hein, les libraires.
Ça va. Non, c'est plus calme quand
même. C'est plus calme en ce moment. Ouais. Bon, cap sur la Suisse avec Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
J'adore cette petite voix, vous savez. Ça va Claire?
Ça va très bien.
Parfait. Vous connaissez la Belgique Claire, bien sûr.
Mais oui, j'adore. Oui.
Avec la géniale Déborah Damblon de la librairie Le Public par Filigrane, qui est à Bruxelles. Mais oui, bonjour Déborah.
Waouh, j'ai bien fait de venir.
Vous avez vu cet accueil? Bon, vous êtes libraire donc à Bruxelles, vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission.
Mais oui, voilà. Alors, il faut visualiser. Un jour, en fin de matinée, j'arrive un peu échevelée parce que j'étais allée faire des livraisons de bibliothèque. Vous voyez, le genre de truc qu'on adore.
Oui, oui.
Et en me voyant, il y a une dame qui attendait au comptoir et qui me dit « C'est à cette heure-ci que vous arrivez avec autant de désinvolture ?» Je vous jure, elle a dit « désinvolture ». Et puis, elle me prend de haut, elle continue et elle me dit « Allez, dépêchez-vous d'aller me chercher la princesse de Clèves pour vous faire pardonner ». Pardonner quoi? J'ai pas compris.
Ouais.
Et moi, vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait, Emmanuel?
Non.
Sous les yeux médusés de mes collègues? Eh ben, je suis allée chercher la princesse de Clèves. Parce que des fois, on est sans voix.
Vous avez obéi, quoi. Docile.
Voilà.
Eh ouais,
bah, j'étais pas fière et je l'ai dit à tout le monde maintenant, grâce à vous.
On est dominé par ses clients, parfois.
Et...
c'est un jeu de soumission-domination. Bon, merci beaucoup pour cette anecdote, Déborah. Avant de recevoir Pierre Lemaître et d'évoquer notamment les conséquences d'une guerre avec son nouveau roman, on va se détendre et vous raconter l'incroyable histoire de Daft Punk en musique avec une foule d'anecdotes et de souvenirs. Et bonjour Anne-Sophie Jeanne.
Bonjour, c'est presque
sur
du
cette
bac.
Cette musique de Daft Punk, oui. Aérodynamique, extrait de l'album Discovery, qui restera l'album culte de toute une génération. Comme pour Gus, l'un des personnages de votre livre, un fan canadien qui va les rencontrer un soir après un concert. Ils sont très accessibles à leur début.
Absolument. C'est-à-dire qu'au tout début, ce qu'on ne savait pas forcément, c'est que les Daft Punk, ils ne sont pas casqués. Ce sont des très très jeunes garçons avec des visages de poupons qui sont extrêmement, extrêmement timides. Ils ont presque, à leur premier concert, ils ont presque envie de se cacher sous la table. Il faut les sortir pour les remettre sur les tables de mixage. Non, ils sont, au départ, ils sont plutôt accessibles. Mais très vite, ils commencent en effet à cacher leur visage. C'est ça, carrément. Ouais. Comme tout le monde le sait, porter des casques.
Porter des casques. Vous décrivez Thomas, hein, c'est le prénom de l'un d'eux, et Guillaume Emmanuel, hein, il s'appelle Guillaume Emmanuel, alias Guiman, comme étant très réservé, très ami, très intime, très à l'écart aussi dès le collège, et issu d'un milieu très bourgeois.
Oui, très bourgeois. Ah ils oui. se sont pas. Ce qui est intéressant en fait avec le courant de la French Touch tel qu'il naît dans ces années 90 à Paris, c'est que c'est pas un mouvement qui vient des ghettos ou des quartiers difficiles ou du milieu ouvrier. Enfin bref, non, c'est quasiment que des fils de bourgeois. Mm-hmm. Certains Parisiens, certains Versaillais. Alors on croit souvent que les Daft Punk viennent de Versailles. Non, ils sont Parisiens de Montmartre.
Oui, c'est le groupe R qui vient de Versailles.
Exactement.
Ouais. Qui démarre en même temps qu'eux, et Phoenix aussi.
Qui fait toute cette satellite, mais en réalité, non, ils viennent bien de Paris, mais ils habitent dans des sublimes appartements, voire maisons carrément.
Ouais. Ils incarnent sans doute, malgré eux, le sérail parisien, on pourrait dire ça, parce qu'ils sont très bien entourés. Est-ce que c'est parce que, justement, ils sont dans un milieu préservé qu'ils peuvent imaginer réussir? Parce qu'ils sont très sûrs de ça. Ils savent qu'ils vont réussir.
Exactement. C'est une des choses qui nous a le plus surpris, je pense, en écrivant ce livre, c'est que pourquoi les Daft Punk ont réussi et pas les autres, c'est pas du tout un hasard. Non. En réalité, ils maîtrisaient absolument tout. Et leur maîtrise et leur confiance en eux, d'abord de la négociation des contrats, comment faire un album, comment se dire, bah non, je vais pas juste sortir
Mais ils sont bien entourés, parce que le papa Thomas, il est déjà dans le métier.
Absolument.
C'est le parolier et le producteur de la compagnie créole.
Exactement. Il connaît un grand succès. Les oiseaux.
Oui.
Exactement.
Donc il a fait un carton avec ça, il sait comment ça marche.
Absolument, donc faire danser des milliers de gens, le père il sait faire. Et il a réussi à une échelle en plus assez élevée pour que le fils se dise non, c'est possible. En revanche, là où, si je peux mettre, là où c'est plus nuancé, c'est-à-dire que d'un côté ils ont des modèles de réussite et des accompagnements en termes de structure, mais de l'autre, ils ont par exemple accès à un studio d'enregistrement absolument extraordinaire grâce à leur père, mais ils n'y vont pas. Parce que la house music, c'est de la musique faite à la maison qu'il va faire dans la chambre avec des petites musiques...
Une table de mixage
qui coûte 100 euros et pas 4000.
Enfin, à son anniversaire, on lui donne 8000 francs, hein, quand même, à l'époque.
Oui.
Vous racontez cette histoire, on donne à Thomas
ou à Thomas.
Oui, c'est ça. On lui donne 8000 francs pour s'acheter du matériel. Hein, ça va, c'est confort. Bon, il fréquente des disquaires, les disquaires de l'époque, au début des années 90. Ils se nourrissent de toutes les musiques du moment. Et ils sont surtout fans des Beach Boys. C'est ce titre, Darling, qui va donner le nom de leur premier groupe. Ils ont aussi un choc musical. Un jour, en écoutant le duo allemand Hard Floor, avec ce titre, Experience One, qui fait 9 minutes, ils écoutent ça. Et pour eux, ça démarre là, en quelque sorte. C'est le déclic pour Thomas et Guiman, c'est le déclic pour ceux qui vont devenir Daft Punk, Anne-Sophie Jeanne.
Absolument, alors il faut se replonger dans l'ambiance. Là, vu comme ça, 20 ans après, c'est pas forcément la musique la plus facile à écouter. Mais à l'époque, en tout cas, c'est complètement nouveau dans le paysage musical. C'est une claque. C'est une musique qui est complètement underground, que personne ne connaît la musique électronique. Ça s'écoute dans des raves qui sont très difficiles à trouver, avec des jeux de pistes absolument invraisemblables. C'est aussi à une époque où il n'y a ni téléphone portable, ni internet. Donc attention, découvrir un nouveau courant musical, ça demandait de l'énergie et des efforts. Et donc là, ils sont donc dans une fête à Beaubourg, organisée par un dieu de la musique électronique, et ils se prennent la claque de leur vie. Ils se disent, non mais on arrête le rock, on laisse tomber les guitares,
voilà.
C'est ça ce qu'on va faire.
C'est comme ça que ça démarre. Ils vont réussir d'ailleurs à placer deux titres sur une compilation avec leur groupe Darlene, et avec ce titre-là, Cindy So Cloud.
Cindy So Loud, Cindy So Loud, Cindy.
Ils sont très fiers car ils vont avoir les honneurs d'une critique dans un célèbre magazine musical. Sauf que quand ils lisent l'article, C'est pas tout à fait ça.
Aïe, aïe, aïe. C'est pas... Ouais, c'est une grosse déception pour Thomas, en l'occurrence, qui raconte cette histoire dans le chapitre, en tout cas, ouais. Qui ouvre donc le magazine de son enfance, le magazine qu'il lit chaque semaine avec des rêves et le cœur qui palpite. Et là, il découvre donc cette critique qui les traite, en fait, de petits punks idiots, des Daft Punk.
C'est Daft Punky Trash.
Exactement.
Voilà, ordures stupides et funky.
Sympa, hein.
C'est le qualificatif pour leur musique. Et alors, c'est cette critique qui va donner le nom de leur groupe, Daft Punk. Guy Mann dessine même un logo en réaction parce qu'ils sont vexés, mais pas très longtemps. Ils réagissent. Et c'est le même logo qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs.
Absolument, c'est incroyable. En fait, tout est déjà là. Les prémices du groupe, elles sont inconnues. Mais en réalité, leur histoire, tout se passe dans des mois, en fait, très resserrés. Car quand ils décident d'arrêter Darlene, leur groupe de rock qui, très franchement, en effet, n'était pas absolument inoubliable et exceptionnel, bah, ils sont déjà en réalité passés à autre chose. Oui, ils ont découvert les rêves, ils ont découvert la musique électronique et ils rêvent déjà d'un ailleurs.
Et le premier titre qui va vraiment faire parler de lui et sortir en maxi 45 tours, c'est Da Funk. Anne-Sophie Jeanne, vous écrivez « Da Funk réconcilie tous les mondes, tous les styles, de l'électro au disco en passant par le rock et le rap. Il symbolise l'universalité de cette fin de siècle. » On va écouter cette musique et on va laisser la place à nos libraires. Si vous voulez bien, il y en a deux qui ont lu cet ouvrage avec le Canada et la Suisse. On commence par Mike Vienno, ça vous va ?
Avec plaisir.
Allez, cap sur Montréal, Mike.
Alors, ben oui, c'est une épopée qui, si elle fascine le curieux lecteur que je suis, mais tout autant inculte en matière de musique électronique, risque de lasser un peu les amateurs. Le livre est présenté dans une galerie de portraits qui se succèdent, accumulant les années, les prémices du groupe à sa dissolution, pardon. Les autrices savent raconter, le sujet sait se mettre en évidence, mais il me reste une petite note discordante. Je suis peut-être pas assez Daft Punk pour avoir tout saisi, mais cela dit, j'ai beaucoup appris. Je demeure juste un peu en bordure.
Bon, vous avez appris des choses quand même. Allez, on va aller en Suisse avec Clairno, Claire.
Oui, ben, moi j'ai trouvé que c'était le livre sur la création musicale en premier lieu et qui est plein de rebondissements comme une création musicale peut l'être et rythmé comme leur musique. Et puis bon, moi j'ai un petit faible pour les adolescents et ces deux-là m'ont vraiment terriblement touchée. Ils sont romantiques à souhait, ils sont étonnamment intègres face au succès et ils sont très attachants. Et puis votre livre, il permet un peu plus d'entrer dans leur intimité et de percer le mystère de ce groupe incroyable et unique.
Daft, aux éditions Grasset. Anne-Sophie Jeanne, on va retrouver votre complice d'écriture, Pauline Guénat, en duplex de Saint-Palais-sur-Mer, à côté de Royan, au bord de l'océan. Bonjour Pauline.
Oui, bonjour.
Voilà la vie de nos libraires, hein, qui sont un peu partagés, mais c'est vrai que c'est presque un livre de fans que vous avez fait, non ?
Mais je ne sais pas si c'est un livre de fans, c'est-à-dire que pour le faire, on a rencontré des dizaines de témoins de l'époque, de gens de leur entourage ou de membres de cette espèce de secte techno, secte électro de l'époque. Et eux, ils parlent en aficionado. Donc du coup, c'est vrai que c'est un langage et une passion qu'on a essayé de retranscrire en étant aussi précise que possible sur le nom des matériels qu'ils utilisaient, sur le nom des morceaux, etc. Après, moi, je trouve que la critique de la deuxième libraire, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire c'est un roman sur l'adolescence en fait.
Eh oui, c'est
un roman sur la création et sur l'adolescence et c'est ça qu'on a cherché, c'est ça qu'on a trouvé à travers tous ces témoignages.
Alors vous avez rencontré beaucoup d'artistes effectivement et de proches du groupe autour de Daft Punk qui a toujours insisté sur une forme de confidentialité comme ça avec leur visage couvert, on en parlait avec Anne-Sophie tout à l'heure. Comment avez-vous réussi à recueillir ces anecdotes et confidences personnelles ?
C'est vrai que comme c'est un groupe extrêmement secret et qui a mis une dizaine d'années à bâtir une stratégie pour se protéger et qui depuis s'y tient avec une très grande intégrité, on a eu du mal en fait. On a eu du mal, on a contacté énormément de monde. Les gens qui sont très proches d'eux ont le respect de leur intimité et ont essayé de la préserver. Mais petit à petit, on a réussi à les convaincre que de nos bonnes intentions et de notre curiosité sincère aussi... Pour les débuts du groupe, en fait, on cherchait vraiment ça, quoi. Les prémices, les commencements, et le tout début de la création, c'est ça qui est complètement fascinant.
Ouais.
Et petit à petit, on a un peu fait le tour de la galaxie de l'époque et on a réussi à recueillir des confidences.
Voilà, il y a plein d'histoires, plein de rencontres, des portraits aussi de personnalités connues ou moins connues. On apprend beaucoup de choses. On apprend aussi que Daft Punk va tout gérer, en fait. Dès le départ, on les demande partout, mais quand ils veulent signer chez Virgin France, c'est ça qu'ils souhaitent. Virgin va hésiter, mais ils vont poser leurs conditions à un moment, Anne-Sophie.
C'est incroyable parce que c'est des petits jeunes qui ont rien, ils ont même pas sorti d'album, etc. Ils sont pas spécialement connus. Et là, ils débarquent devant une major quand même. Virgin, c'est rien, surtout en plus à l'époque. Et ils disent non, mais attendez, votre contrat, vous pouvez le ranger. Voici nos conditions en les glissant et sur lesquelles ils ne négocieront pas. C'est-à-dire que c'est
pas de photos,
quasiment
pas de promo à l'ancienne.
Exactement.
On change le mode de communication autour d'un artiste.
Complètement, c'est révolutionnaire. Mais en réalité, ce qu'on ne réalise pas forcément aujourd'hui, c'est à quel point Daft Punk a rabattu les cartes de l'industrie du disque et en révolutionnant la culture pop, le monde du disque, mais aussi même la technologie. Et ce qu'ils ont créé, c'est quelque chose qui a eu un impact énorme, même encore aujourd'hui.
Et dès que le disque sort, c'est un triomphe, le premier album, avec notamment ce titre « Around the World ». Voilà, la révolution Daft Punk, hein. On peut parler de révolution Daft Punk, Pauline ?
On peut complètement parler de révolution Daft Punk et ce qui est amusant au moment de Around the World, c'est qu'ils ont fait un clip. À l'époque, en fait, il n'y a pas beaucoup de clips dans le milieu de la techno et ils ont confié la réalisation de ce clip à Michel Gondry, qui venait de réaliser un premier clip pour Björk et donc était au tout début de son succès. Toute l'histoire de la réalisation de ce clip est incroyable parce qu'ils prennent une chorégraphe, Blanca Lee. La musique est extrêmement rapide, trop rapide pour être dansée. Donc, du coup, ils sont obligés de la passer au ralenti. Les danseurs, c'est ce qui rend complètement fou.
Oui, c'est un univers. À chaque fois, ils créent un univers. Et d'ailleurs, avec Discovery, ils vont créer un autre univers avec l'univers des mangas, l'influence d'Albator et un titre qui va fasciner toute une génération, plusieurs générations même, car tout le monde va se retrouver autour de ça. Harder, better, faster, stronger. Anne-Sophie Jeanne, Pauline Guéna, vous qui êtes journaliste, spécialisée aussi dans la musique, savez-vous pourquoi Daft Punk s'est séparé ? C'est quoi la vraie histoire ?
Peut-être qu'en lisant le livre, ça donnera des indices. On sent déjà un besoin d'indépendance, que finalement, petit à petit, alors je veux pas dévoiler la fin, mais que quand même, il y a deux types de vie, deux façons de gérer déjà leur vie privée, mais aussi leur façon de travailler, qui commencent à devenir différentes. Mais après, la réalité, on peut donner toutes les raisons du monde, je crois que la réalité, elle est très très simple. Comme tous les ménages, la première cause de séparation, c'est l'usure, souvent.
Vous pensez, c'est une histoire de personne en fait, pas de groupe.
Je pense qu'ils s'entendent toujours bien et que leur amitié n'est pas morte, mais bon, ils ont quand même fait la musique ensemble pendant 28 ans. Mmh. Ils ont commencé extrêmement jeunes. Est-ce qu'ils ont envie de faire ça toute leur vie ? Ben non, c'est déjà pas mal. Mmh.
Pauline Guéna, vous êtes d'accord avec ça ?
C'est vrai que c'est une amitié d'adolescence, des garçons qui se sont rencontrés à 15 ans.
D'accord.
30 ans plus tard, ils ont fait du chemin, ils n'ont plus forcément tout à fait les mêmes goûts, tout à fait les mêmes envies. Et comme c'est des gens qui n'ont jamais voulu se répéter, c'est un groupe qui ne s'est jamais répété, en fait, chaque œuvre était nouvelle et était un vrai statement, ils ont décidé d'arrêter là. Je pense que c'est ça.
Bon, merci beaucoup, merci Anne-Sophie Jeanne, merci Pauline Guéna. Daft est paru chez Grasset. Bonne chance pour ce livre, à bientôt. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast balado-diffusion si vous avez manqué une partie de cette émission ou une émission entière sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. À suivre le nouveau roman événement de Pierre Lemaître pour un entretien grand format. Vous allez voyager avec ce livre. Avant cela, voici le nouveau titre du groupe La Femme dans la librairie francophone. C'était le groupe La Femme avec Va.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre nouveau roman est très attendu. Vous avez changé d'éditeur pour vous lancer dans une saga familiale en plusieurs volumes. Le premier, Le Grand Monde, fait 580 pages et fait le portrait de la famille Pelletier à Beyrouth à la sortie de la Seconde Guerre. C'est un feuilleton, vous l'assumez comme tel?
Alors ce que j'assume, c'est que le livre soit conçu comme un feuilleton, mais la suite romanesque n'est pas en soi un feuilleton. Chaque volume, il y aura 4 volumes sur les Trente Glorieuses, chacun sera indépendant et le lecteur pourra indifféremment prendre n'importe lequel chaque volume. Oui.
Bon, vous reprenez en tout cas la tradition littéraire du feuilleton, supplantée aujourd'hui par les séries audiovisuelles. C'est le succès d'Au revoir là-haut au cinéma qui vous a incité à prendre cette direction.
Vous savez, permettez-moi, m'inscrire un petit peu en fouille.
Oui, vous faisiez la grimace. Oui, oui.
Je peux. Je crois que le feuilleton n'a jamais été aussi à la mode. Mmh. N'oublions pas que c'est nous, les romanciers, qui avons inventé les séries télé. Parce que la série télé, c'est au fond la reprise du système narratif que nous avons inventé au 19e siècle. Donc nous sommes, nous, les romanciers, très heureux d'être toujours à la mode à travers les séries télé.
Ah, vous avez
donc,
commencé en fait, au 19e, oui, c'est vrai.
Oui, en fait, oui. Le roman feuilleton naît au 19e siècle, et cette modalité narrative, c'est-à-dire cette manière de raconter les histoires n'a pas vieilli, non seulement elle n'a pas pris une ride, d'abord elle saurait plus où la mettre, mais surtout parce que la série télé a utilisé cette méthode et en a fait au fond un succès planétaire, donc aujourd'hui le roman feuilleton, c'est notre victoire.
Mais alors vous y pensez quand même, parce que quand on vous lit, c'est un peu comme Joël Dicker, on pense à l'adaptation télé ou série, et
non,
quand j'ai lu
jamais.
Cela, moi je me suis dit non. Il va y aller, c'est sûr.
Non, je n'y pense jamais, j'ai la faiblesse de penser que quelqu'un qui travaille sur un roman avec l'idée de l'adaptation va plutôt écrire un scénario romancé que véritablement un roman. Mmh. Moi, je pense que c'est pas une bonne méthode pour faire un bon roman.
D'accord. Bon, parlons de votre histoire, Pierre. On va essayer de décrypter sans tout dire, hein, parce qu'il y a un peu de suspense et des rebondissements, surtout. Louis Pelletier, père de 3 garçons et d'une fille, a fait fortune au Liban, avec une savonnerie. C'est une institution à Beyrouth, en tout cas, ils font tout pour l'être. Mais ses 3 fils n'ont pas choisi de reprendre cette affaire familiale qui s'est étendue, comme ça, dans la région et au-delà. Ils ont des parcours de vie alternatifs, ils vont quitter Beyrouth. Ils se sentent trop à l'étroit là-bas?
C'est le moment, comme dans toutes les familles, c'est le moment où les enfants doivent partir. Le roman saisit la famille Pelletier à un moment de crise, celle que toutes les familles connaissent. Lorsque les enfants n'ont pas trop d'écart d'âge, ils partent tous comme une volée de moineaux en quelques années.
Et c'est l'éclatement. L'éclatement de la famille.
Oui, c'est l'éclatement. Alors évidemment, comme c'est une famille qui a immigré de France dans les années 20 pour aller s'installer à ce qu'on appelle le Grand Liban, c'est vrai que l'attraction vers la métropole, parce que ce pays est extraordinairement francophone et francophile, cette attraction est, j'ai envie de dire, presque mécanique pour les enfants. Ils ont envie de venir à Paris, c'est une espèce de syndrome de Châteauroux.
Ça. Alors c'est ce qu'ils font. Il y en a un qui va travailler à Paris, l'autre qui va faire des études supérieures. Il y a Étienne, lui, qui va retrouver son amoureux parti au front en Indochine. Bref, tout ce que redoutaient les parents et surtout la mère. Et c'est là où est l'éclatement de la famille. Alors les rencontres vont être nombreuses, Pierre Lemaître, dans ce livre. Et elles vont, ces rencontres, peu à peu, affaiblir la famille. Car ces enfants vont se fourvoyer, comme on dit. Ça part des enfants.
L'hypothèse, si vous voulez, c'est que le premier départ est rarement le bon. Le pauvre Jean, lui, fait un départ dans la vie absolument calamiteux, puisque son père essaie de lui faire reprendre la savonnerie familiale, à quoi il ne réussira pas. Et chacun, au fond, jusqu'à Hélène, la dernière, va se fourvoyer. J'aurais tendance à penser, c'est une hypothèse que je fais, c'est que les vraies vies commencent mal.
Ah ouais. Elle a mal commencé
sur
la vôtre.
Un faux départ.
Mais vous aussi, hein, vous l'avez dit ça.
Ah oui. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est aussi le modèle qui a été le mien. Oui. Sauf que moi, mon faux départ a duré 45 ans. C'est quand même une exception.
Oui, ça va. Vous êtes bien sorti quand même.
Oui, hein? Mais tardivement.
Oui, tardivement. Bon, en tout cas, il y a cette jeune fille aussi, Hélène, qui a 18 ans, qui va se compromettre, elle, dans une connaissance parisienne, un braqueur et vendeur de drogue. Tout est là pour détruire cette famille. On ne peut pas tout dire, mais il y a un mystère aussi autour de Jean. S'il quitte Beyrouth, c'est parce qu'un jour, il a tué une femme.
Oui, alors Jean, si vous voulez, c'est un nerveux, c'est un impulsif, vous voyez. Alors il y a des gens, ils cassent des assiettes, d'autres, vous voyez. Lui, il a tendance à tuer des femmes.
Ouais, ouais.
Bon, chacun sa manie. Enfin, je veux dire, on ne peut pas lui en vouloir.
Ah, bah, quand même.
C'est simplement un coup d'énervement. Mmh. Il faut essayer de comprendre.
Vous en profitez parce que je peux pas raconter la suite.
Oui,
parce que je vous coince avec la suite.
Oui, tout à fait.
Ce que vous dites ne marche pas.
Je meuble. Je le reconnais.
On se demande, en tout cas, tout au long du livre, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça?
Alors, Jean pose une sorte de mystère, c'est que j'espère que le lecteur va le trouver à la fois émouvant et touchant dans les échecs auxquels la névrose paternelle va le conduire, et en même temps assez monstrueux dans ses énervements meurtriers. Et j'aimerais bien idéalement que le lecteur, la lectrice qui termine le roman, soit partagé sur ce personnage, parce qu'on va le retrouver dans les volumes d'après. Ce personnage m'intéresse par ses contradictions.
Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires. Les quatre ont lu votre roman, Pierre Lemaître. On va commencer par le Canada, avec Mike Vienno. Mike.
Ah, décidément, je voulais éviter le jeu de mots, mais j'y suis contraint. Pierre, vous êtes le maître de la saga.
Oh non!
Quel souffle dans cette épopée familiale, quelle fluidité, quelle richesse des personnages bien dessinés, tout en nuances, tout en complexité. On finit souvent par s'égarer dans les romans polyphoniques familiaux, mais vous avez ce don de tout bien maintenir, tout contrôler. C'est une brique de savon, ce roman, mais quand on s'y frotte, on en oublie le temps comme dans un bon bain agréable. Vous êtes généreux, franc, intègre avec vos lecteurs.
Voilà, plein de jeux de mots avec le savon, votre nom de famille, tout va bien.
C'est gentil quand même.
Époustouflé en Suisse, je crois, Claire Renaud.
Alors moi, j'ai adoré aussi, c'est un tout grand roman, comme on les aime, qui nous emporte dès les premières pages. On ne s'ennuie jamais. Votre livre est palpitant du début à la fin et je rajouterai addictif. Hein. Pour tous les insomniaques, vous pouvez y aller, vous ne le lâcherez pas. Et puis, il y a le réel que vous nous rendez, mais tellement bien. On est dans l'humidité, dans les grosses pluies du Vietnam, on sent les odeurs de savon à Beyrouth, c'est incroyable. Et puis, il y a autre chose encore, c'est que moi, j'ai beaucoup appris sur cette guerre, la guerre d'Indochine. J'avoue que ça m'était assez obscur. Et là, ben, vous nous éclaircissez un petit peu. Donc, vous l'aurez compris, j'ai adoré votre livre et je le recommanderai avec plaisir.
Eh ben, dis donc.
Merci beaucoup.
On va voir avec les deux autres tout à l'heure. Il y a un gros scandale, Pierre Lemaître, effectivement. Un scandale historique et véridique. C'est le jeune Étienne qui part à Saïgon chercher son compagnon qui a disparu lors de la guerre d'Indochine et qui va tenter de révéler ce scandale. Il découvre que l'on fait un trafic de devises. Expliquez-nous.
À l'époque, la piastre, qui est la devise indochinoise, vaut 8 francs et le Père Noël du capitalisme est descendu le 31 décembre 1945 et a décidé qu'au lieu de 8 francs, elle en vaudrait 17. Ce qui veut dire que quand vous envoyez une piastre en France, votre fortune a doublé. Mmh. Et donc, beaucoup de petits malins décident de faire semblant d'acheter des choses en France, envoient des piastres, doublent leur fortune, font revenir l'argent en Indochine et recommencent. Le capitalisme a inventé le mouvement perpétuel.
Mais alors, pourquoi ils font ça? Pourquoi l'État français prend en charge ça?
Alors, à mon hypothèse, c'était très difficile à comprendre, Emmanuel. Je me suis vraiment posé la question, pourquoi l'État va dépenser un milliard par jour à entretenir ce trafic? Eh bien, mon hypothèse, c'est que cette guerre ne peut pas être gagnée militairement et au fond, on essaye d'acheter le pays.
Ah oui. Oui, parce que les Viet Minh, ils vont profiter de ce système pour s'armer contre la France.
Oui, c'est une guerre qui n'est pas gagnable. L'armée française connaît deux types de guerres. La guerre de mouvement et la guerre de position. La guérilla, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas par quel bout prendre un peuple qui jette une grenade et qui s'en va et qui se sauve. L'armée ne pourra rien faire et très vite, les autorités comprennent que ce pays n'est pas gagnable. Donc, c'est le capitalisme qui va essayer de maintenir à toute force ce pays debout uniquement pour maintenir les intérêts financiers français. Mais tôt ou tard, il faudra que ça ait une fin. Et cette fin-là, c'est pas moi qui l'écris, c'est Éric Vuillard qui finira par l'écrire dans son roman qui vient de paraître en même temps que le mien, qui s'appelle « Une sortie honorable » et qui raconte d'une certaine manière la fin de la guerre. Nous nous sommes passés le relais sans le savoir.
Très bien. Bon, les magouilles de la guerre, on y revient dans un instant. On va laisser la parole à Sophie Todescato pour La France. Vous avez aimé ce livre, vous?
Ah mais oui, je souscris, ça m'a beaucoup,
pas
beaucoup plu.
Pas une critique, rien du tout.
Mais non, je crains. Non, c'est un livre qui est très très bien fait, mais qui ne se contente pas d'être une belle mécanique. Au contraire, c'est un roman extrêmement vivant qui met ses personnages en mouvement. Ça nous embarque, comme on dit mes confrères, on y croit, comme disent les enfants qui lisent leur premier roman d'aventure. Lire votre livre, c'est retrouver quelque chose de cet enthousiasme-là, innocent, et c'est assez merveilleux.
Je suis très sensible à ce compliment tout particulier parce que celui qui écrit en moi, c'est l'adolescent qui a aimé les feuilletons du 19e dont nous parlions en début d'émission. Donc votre compliment me fait tout à fait plaisir.
Merci.
Bon, je mise tout sur la Belgique pour avoir une critique, mais je ne suis pas sûr.
Oui.
Allons-y, Déborah.
C'est connu parce que je déteste toujours tout, moi, Emmanuel. Eh ben, c'est raté pour cette fois parce que j'ai encore le cœur qui bat, j'ai encore les mains qui tremblent, j'ai encore les yeux qui brillent. Parce que c'est quelque chose de sortir de vos romans, monsieur le maître, quelque chose. Quelle aventure vous nous faites vivre. Vos livres, et puis celui-ci en particulier, je trouve, c'est comme des poupées russes. On a des petites histoires qui s'imbriquent dans des histoires plus grandes et encore plus grandes. Et puis par-dessus ça, on a des personnages attachants, vivants, humains, et une envie irrésistible de tourner les pages. Et tout est dans des proportions parfaites.
Bon, vous avez séduit tous nos libraires, Pierre Lemaitre, c'est très rare.
Écoutez, je suis très, très flatté, je suis très heureux et très flatté. Parce que vous savez, nous, romanciers, nous avons terriblement besoin des libraires, nous avons besoin des médias, nous avons besoin des journalistes littéraires comme vous, et nous avons terriblement besoin des libraires. Donc, quand les libraires aiment votre livre, voilà, pour moi, c'est une vraie, vraie récompense. Ouais.
Bon, les magouilles de la guerre, il en est question, il y en a trois dans votre roman, Pierre. Une qui concerne le père de famille Pelletier, je n'en dis pas plus, celle des piastres indochinoises, qui est la clé de votre histoire, et les magouilles de ces commerçants qui ont pillé les juifs pendant la guerre, là aussi, je m'arrête là. L'humain ne peut jamais s'empêcher de magouiller, même en temps de guerre.
Oui, je crois que c'est le fond de commerce, c'est l'humanité même, quoi. Je voudrais dire un petit mot aux auditeurs, hein. Ceux qui, après notre émission, feront la gentillesse de lire le livre, se rendront compte à quel point Emmanuel Kérad a été obligé de faire des acrobaties formidables pour ne rien dévoiler. Depuis le début, je vous vois faire une sorte de gymkhana dans ce livre. Je veux dire, c'est absolument admirable. J'espère que tout le monde appréciera les mouvements de hanches auxquels vous avez été contraint.
J'ai lu les 580 pages et à la fin, je me suis dit, je peux rien dire du livre. C'est génial. Bon, la guerre d'Indochine, c'est vrai, notre libraire le disait, vous dites beaucoup de choses et on apprend des choses. Vous rappelez que cette guerre lointaine qui a fait beaucoup de victimes a aussi fracturé la société française de ces années-là. Et une guerre, ce n'est jamais sans conséquences pour un pays. L'embrasement est très rapide et cela sonne tout particulièrement en ce moment même.
Oui, évidemment. Alors, il ne s'agit pas du tout, enfin, on ne peut pas du tout comparer cette guerre d'Indochine, même à l'autre guerre qui va lui succéder, qui sera la guerre d'Algérie. En fait, je me suis intéressé à cette question justement parce que c'est une guerre qui avait été oubliée. La guerre nodale de ces années-là, c'est évidemment la guerre d'Algérie, mais elle a occupé beaucoup les esprits français parce que c'était une guerre de conscription. On envoyait nos enfants militaires dans le bled, alors que la guerre d'Indochine était une guerre de militaires. En fait, c'est une guerre qui n'a pas concerné véritablement la population française, c'est une guerre de capitalistes et de militaires. C'est un peu la même chose, ils avaient c'était le même combat.
Mais on voit en tout cas dans votre livre, Pierre Lemaitre, que en temps de guerre, il y a des hommes qui renoncent à leur humanité. Avec les tortures, il y en a, avec les assassinats, bien sûr, plus rien ni personne n'est fiable. Comment en arrive-t-on là à renoncer à l'humanité ?
Alors,
comment vous l'expliquez, vous? Parce que vous avez fait plusieurs... Alors, c'est pas un livre sur la guerre, mais vous l'évoquez souvent. Au revoir là-haut, c'était le cas, et là encore...
Personne n'a véritablement trouvé la solution. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a une sorte de glissement entre une pulsion de mort qui est en nous et qui nous amène à la destruction. Freud a à peu près, je crois, dit l'essentiel sur ça. Et une fois qu'on est au pouvoir, et là, je pense davantage à la guerre d'aujourd'hui, il y a une sorte de dérive quand je vois Vladimir Poutine, par exemple, à la télévision hier ou avant-hier. J'avais l'impression d'un héros de Garcia Marquez. C'est-à-dire quelqu'un qui est pris dans sa folie de domination. Bon, on sait depuis Freud que la politique est une maladie sexuelle, mais la guerre, c'est plus qu'une maladie sexuelle, c'est la maladie de la politique, et on ne sait pas où ça s'arrête parce que, effectivement, notre fond de pulsion de vie et de pulsion de mort est amené dans une sorte d'embrasement qui perd ses repères et qui ne permet plus de savoir où sont les frontières entre l'humain et ce qui ne l'est plus.
C'est ce qu'on vit là en ce moment.
J'ai l'impression.
Malheureusement. Bon, merci beaucoup Pierre Lemaitre.
Merci de votre accueil.
De nous avoir divertis aussi, parce que c'est un livre de divertissement et c'est important, le divertissement dans la littérature. Le Grand Monde est paru aux éditions Calmann-Lévy. Il y aura 3 autres volumes. En 3 ans, 4 ans?
Oh, écoutez, je ne sais pas. Ce volume, c'est 1948, le prochain 52. Ensuite, nous aurons 59 et 1965. J'aurais fait une tranche des 30 glorieuses qui, j'espère, donnerait une bonne photo de l'ensemble de la
série. Sur combien de temps?
Allez, on va se donner 4 ans. 4 ans.
Oui, ça va.
Allez.
Très bien. Bon courage, Pierre.
Merci beaucoup.
Merci. À suivre notre séquence Livre de poche avec Jacques Attali. Vous allez entendre un moment très, très troublant. Et on sera ensuite en duplex avec Jacques Attali pour parler de la guerre en Ukraine, et puis les coups de cœur et les coups de gueule de nos libraires. Ce sera après le nouveau titre du Québécois Pierre Lapointe dans la librairie francophone.
Je caresse le souvenir de ton corps qui danse, porté par le flot du désir, comme pris par la transe. Ta chevelure noire fusain trace les sillages qui ornent les traits du dessin de ton beau visage. Je suis la fusée de la nuit en acier ardent, celle qu'on aperçoit et qui fuit dans le firmament. Ta peau douce couleur de l'or devient tourmaline. Tu seras mon conquistador sous d'adrénaline. Tu restes debout comme un phare, nu et glorieux, et tu dévores de ton regard mon sexe joyeux. Résisterons-nous au tumulte du temps qui chantonne la prière des catapultes que l'amour espionne. Sous ta peau, chacun de tes muscles appelle mes mains, et dans une envolée, je brusque ton calme bassin. Je cherche à l'entrée de ta bouche l'hypocrase des dieux, et je bois comme l'oiseau mouche ton nectar crémeux. Dans un autre monde, nous étions amants. Pour nous, les étoiles fécondes meurent dans l'océan.
Le nouveau titre de Pierre Lapointe avec la danse du conquistador.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La chronique des libraires, première partie, un coup de gueule au Canada, Mike Vienno.
Emmanuel, j'en ai contre les bandeaux sur les livres. Oui, c'est un petit surplus promotionnel, commercial à la limite. Oui, c'est un petit coup de main pour le livre quand le bandeau indique que c'est le plus grand livre de l'année ou le roman à découvrir impérativement, cité par un journaliste méconnu. Évidemment, on peut s'y fier ou prendre le bandeau et en faire un marque-page de fortune.
Ben
c'est
oui.
pratique. Oui. Mais cette tendance à en faire une partie entière sur la couverture, cette idée d'intégrer le bandeau à même le livre, non. Laisser les bandeaux comme ils étaient, c'est une ceinture qu'on retire pour mieux se mettre à notre aise pour la lecture.
Bon, il y a de très beaux bandeaux. Celui de Daft, par exemple, est magnifique. Et oui, celui de Pierre Lemaître aussi, parce qu'ils ont tous les deux un bandeau. Je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup les bandeaux. Mais bon, après, chacun
sait. On prend pas mal, ça va.
Bon, merci, Mike. Un coup de cœur en France, Sophie Todescato?
Oui, c'est un livre qui est à la fois drôle et dans la finesse. Il est signé Julia Deck. Il est paru aux éditions de Minuit et ça s'appelle Monument National. Alors, le personnage principal, c'est une vieille gloire du cinéma français qui vit la vie de château avec tout son petit personnel. Quand surgit dans cette affaire une mystérieuse caissière de supermarché. Aucun personnage n'est évidemment jamais ce qu'il prétend être dans cette histoire d'escroquerie et d'héritage qui mélange la satire sociale, le polar avec une ironie bien trempée. C'est très très bien.
Monument national de Julia Deck aux éditions de Minuit. Merci Sophie. On va parler dans cette troisième partie d'émission de la guerre en Ukraine. Jacques Attali était venu en 2014 parler de son roman Nos vies, disent-ils. Un roman d'anticipation qui évoquait une possible troisième guerre mondiale. On a retrouvé un extrait dans nos archives et on retrouve Jacques Attali juste après en duplex. Écoutez, c'est très, très troublant. C'était en 2014. Vous publiez un roman d'anticipation très inquiétant autour de la crise mondiale et vous semblez inquiet du rôle probable de la Russie dans un éventuel conflit mondial. Alors, j'ai envie de vous demander, Jacques Attali, comment faut-il interpréter justement ce conflit en ce moment qui oppose les États-Unis, l'Europe et la Russie sur l'affaire Ukraine, ou bien comment faut-il interpréter les récentes envolées de Vladimir Poutine qui, à propos de l'ex-URSS, semble regretter cette époque. Il a même dit, celui qui ne regrette pas l'URSS, n'a pas de cœur.
Oui, un des personnages du roman qui pense être pression pense qu'il prévoit une guerre mondiale qui partirait de la Russie. Si on sort de ça pour venir à la situation d'aujourd'hui, je crois en effet que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse où n'importe quel incident peut entraîner une guerre. La situation à la frontière ukrainienne peut le faire par un engrenage de stupidité ou de volonté. J'ai été pour ma part moins choqué par l'opération de Crimée, parce que si un peuple a envie de vouloir être indépendant, peut difficilement s'y opposer. Je prends un exemple suisse. Supposons qu'un gouvernement, qu'un Dieu ne plaise, installé à Berne, décide de supprimer le français comme langue nationale, ce qu'a fait le gouvernement ukrainien récemment, en supprimant le russe comme langue nationale, je comprendrais que les Genevois déclarent qu'ils sont plus suisses et qu'ils ont envie d'être ou indépendants ou rattachés à un cauchemar qu'on peut pas... Enfin, il faut quand même relativiser les choses. Donc, dans l'affaire ukrainienne, dans l'affaire crimienne, pour moi, ce n'est pas une annexion par les Russes, c'est une volonté de la Crimée de trouver son identité.
Oui, mais vous dites que c'est quand même le pivot du danger,
le danger, la Russie. Le danger est là.
Avec Vladimir Poutine ou pas, Jacques Attali?
Pas spécialement. La Russie est un peuple extrêmement violent, qui a été dirigé par des dictateurs depuis toujours. Catherine II expliquait très bien qu'elle ne peut jamais diriger la Russie autrement que par des dictateurs. Elle était allemande, mais ça fait de quoi elle parlait, parce que c'est un trop grand pays pour permettre une démocratie. Mais quand la Russie est encerclée, elle pousse les murs, et c'est ce qui est aujourd'hui le danger. C'est vrai qu'il y a du côté russe la nostalgie de l'Union soviétique. Je pense que nous, Européens, nous avons intérêt à associer la Russie à l'Europe, à ce que la Russie devienne un état de droit. Et je comparais souvent la Russie d'aujourd'hui à l'Allemagne de Weimar. En 1919, on a fait une immense erreur en humiliant l'Allemagne, ça a conduit à Hitler. Et il ne faut pas faire la même erreur avec la Russie, il faut au contraire tout faire pour l'intégrer, pour qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, une démocratie.
Jacques Attali, en avril 2014, dans la librairie francophone, pour son roman « Nos vies, disent-ils », paru donc désormais au Livre de Poche. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Merci d'être dans la librairie francophone pour réagir à cette actualité dramatique. Actualité que vous aviez anticipée il y a 8 ans. C'est très troublant, hein, ce document sonore. C'était annoncé, c'était inévitable.
C'était un roman autour de la préscience et mon personnage prévoyait beaucoup de choses dont certaines ont eu lieu. Et il y a 8 ans, on aurait pu encore peut-être faire quelque chose pour rapprocher la Russie de l'état de droit, ce qui était un combat que j'ai mené depuis de longues années, même des décennies. Mais aujourd'hui, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est d'affronter un dictateur qui, pour la première fois dans l'histoire, depuis que l'arme nucléaire existe, menace de l'utiliser d'une façon offensive et non pas d'une façon défensive. Donc on est dans un univers radicalement neuf et qui en effet renvoie à l'idée de ce qu'une guerre mondiale peut partir de la Russie, comme le personnage du roman le laissait entendre.
Le président français Emmanuel Macron s'est adressé à la nation dès le lendemain de l'invasion russe sur un ton martial, se disant, je cite, « prêt ». Que peut-il se passer aujourd'hui, Jacques Attali ?
Tout est possible. Il faut en tout cas être préparé au pire, parce que l'histoire est tragique. Enfin, je préfère ne pas évoquer les scénarios du pire, chacun les devine. Il faut essayer de trouver une solution aux raisons gardées, jusqu'à ce qu'on ait une Russie qui redevienne gérée par des gens raisonnables.
Je vais vous poser la question clairement alors, Monsieur Attali. Vous qui avez été au plus près du pouvoir, auprès de François Mitterrand, peut-il y avoir une guerre mondiale ? Est-ce que le risque est... Alors, je n'ose pas dire réel, mais est-ce que c'est vraiment possible, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui ?
Le risque de guerre nucléaire et de guerre mondiale est tout à fait possible quand les acteurs disposant de cette arme ne sont pas rationnels. Jusqu'à présent, les acteurs disposant de cette arme ont toujours été rationnels. On peut se demander si c'est toujours le cas.
Et alors la solution, que feriez-vous, vous, en tant que conseiller du président de la République ? Vous l'avez été. Que diriez-vous aujourd'hui au président de la République en France ?
Il pourrait m'arriver de lui parler et de lui dire ce que j'ai à lui dire.
Alors il a dit, sur le plan militaire et économique, nous serons sans faiblesse. Ces événements auront des conséquences durables et profondes sur nos vies. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par cette phrase-là ?
D'abord, il y aura des conséquences économiques considérables auxquelles il faut se préparer, qui sont évidentes. L'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du prix du gaz, l'augmentation du prix du blé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un des producteurs majeurs de blé, et qu'en particulier les régions dites du Donbass concentrent l'essentiel de la production de blé de l'Ukraine. Et donc, on a une certitude de voir l'inflation partir beaucoup plus haut qu'elle ne l'était déjà un peu partout dans le monde et en partie dans l'Europe. Donc on se trouve en situation d'une situation où la croissance va baisser, l'inflation va augmenter et il faut certainement se préparer à cela. On est sorti d'une pandémie, je l'espère, pour affronter un conflit. C'est ironique de se souvenir que en 1918, on sortait d'une guerre mondiale pour entrer dans une pandémie. Aujourd'hui, on vit la même chose à l'envers.
Bon, merci beaucoup Jacques Attali d'avoir témoigné dans la librairie francophone. Je rappelle que votre roman d'anticipation, Nos vies, disent-ils, est paru au Livre de Poche. Merci Monsieur Attali.
Il faut se préparer au pire, mais le pire n'est pas certain.
Merci Monsieur Attali. Pierre Lemaître, vous êtes effaré.
Oui, je suis
on est tous effondrés.
Je crois que nous sommes tous effondrés. J'ai sans doute moins de clés que Jacques Attali pour comprendre la situation. Mmh. Je dirais ma position n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Elle est celle d'un citoyen. J'ai tendance, moi, à avoir un peu d'optimisme et à imaginer quand même que il y a un peu de rationalité dans la position de Vladimir Poutine, qu'il joue des muscles. Je ne suis pas absolument pessimiste sur l'issue de ce conflit, mais il est extrêmement préoccupant à l'évidence.
On espère qu'il joue juste des muscles, comme vous dites. Merci, merci Pierre.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Allez, sans transition, la chronique des libraires, deuxième partie avec Claire Renaud en Suisse pour un coup de gueule, Claire.
Oui, alors moi j'ai un problème d'éthique, c'est-à-dire quand vous venez d'apprendre la mort d'un écrivain, je vais être marseillaise, mais c'est quand même assez le cas. Mmh. 3 secondes plus tard, vous recevez un mail du représentant ou carrément de l'éditeur pour vous dire qu'il est mort. Ah oui. Et tous les titres que vous pouvez commander. Alors, c'est genre, faites super, il est mort, achetez tout de suite tous ses bouquins. Comme si on le connaissait pas. Or, on le connaît, nous l'avons en stock, nous avons ses titres. Et faire du commercial sur le dos des morts, il y a quelque chose qui me dérange.
Ouais, on est d'accord, c'est vrai. Pierre Lemaitre à
Caisse. Je suis content d'être vivant, surtout.
Oui, c'est ça. C'est que, là, pour l'instant, ça va. Bon, oui, effectivement, vous avez raison, Claire. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'il y a ce système commercial autour de tout, hein. On utilise tout, finalement. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon?
Oui, oui, je sais qu'une info chasse l'autre et qu'on en a tous plus que marre du Covid, Emmanuel. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas encore tous des tas de questions sans réponse. Alors, si vous voulez des vraies informations et puis des réponses sans langue de bois, ben, je vous conseille de lire La menace virale de Nathan Clumet. C'est un de nos plus grands médecins spécialistes en maladies infectieuses. Mmh. C'est Monsieur Sida chez nous. Et c'est comme un mode d'emploi. C'est clair, c'est accessible, c'est vraiment honnête et ça permet, je crois, de faire la part des choses.
Il est conseiller aussi du maire de la ville de Bruxelles, hein, je crois, Nathan Glumec.
Oui.
Voilà, La menace virale aux éditions Genèse. Merci Déborah. Déborah, on vous retrouve dans la version télé de la librairie francophone.
Peut-être, Emmanuel.
Si, peut-être. Bah non, pas peut-être, c'est sûr. Diffusion ce dimanche à midi sur TV5 Monde, France-Suisse-Belgique. À retrouver aussi sur RTS2, RTBF, La 3, ici RTV, qui ont diffusé l'émission cette semaine. Mais vous pouvez voir ou revoir cette émission en vidéo à la demande, comme on dit, avec Julien Clerc, Mahamat Saleh Haroun, Francis Huster et un duo belge très complémentaire. On vous offre justement un extrait de cette émission avec ces Belges, Anne Herbautz et Karl Norak, qui étaient sur notre plateau pour un livre de poésie destiné à la jeunesse. On termine avec un peu de douceur.
À chaque saison, la césure a ses airs de fête. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes.
Karl, vous êtes un grand poète belge, nommé d'ailleurs en Belgique poète national en 2020 pour 2 ans, donc jusqu'à 2022, jusqu'à cette année-là. Anne Herbautz, vous êtes peintre et illustratrice multiprimée. Anne, vous dites aimer fabriquer des livres plutôt que les écrire, comme des objets d'art.
Oui, il y a une idée du livre qui est aussi un objet, qui a un espace en fait. Quand je dis fabriquer, c'est quelque chose de très concret. On écrit dans un espace qui est entre le texte et l'image, où il y a une matière-temps aussi
c'est
pour
ça.
Se développer.
Et la matière aussi, ça compte, le grammage du papier, hein, la couleur du papier, cette sensation-là très charnelle chez vous. Vous publiez alors donc petits poèmes pour y aller. Pour aller où, Karl?
Ah, pour aller nulle part et au bout de l'univers, quelque part.
Ouais.
C'est ça, la poésie est à la fois pas grand-chose et tout l'univers. Hein. Donc, il y a des poèmes pour aller vers le fond des choses, il y a des poèmes pour apprendre à se moquer du monde, parce que ça reste important. L'espièglerie est une forme de résistance.
Ouais, vous critiquez un peu les hommes, hein.
Bah, disons, parfois, je parle aussi avec les arbres, et, oui. Et quelquefois, on dialogue un peu sur les hommes. Qui
c'est
sont
ça, vous dites que quand vous vous ennuyez, vous allez voir un arbre. Il est beaucoup question des arbres dans ce livre, il y a des dessins magnifiques d'arbres, d'ailleurs.
Il est beaucoup question d'écologie, de valeur, parce que y aller, c'est à la fois partir en promenade. Et ce qui est merveilleux, c'est que Anne m'a dessiné. Je suis d'une souplesse extraordinaire à travers le livre, parce qu'elle a eu l'idée de me dessiner, parce que l'auteur doit y aller aussi, en quelque sorte.
Oui, c'est vous le personnage qu'on voit partout.
Voilà. Ouais. Et alors après, y aller, c'est aussi... Moi, je dis toujours qu'un poète pour enfants doit avoir la même liberté qu'un poète pour les adultes, c'est-à-dire laisser les mots venir sans forcément penser à un message. Mais en même temps, dans un monde qui vacille tellement qu'il faut y aller aussi pour partager ses valeurs et pour essayer d'apporter un autre message vers les enfants. enfants.
Il y a des figures et des métaphores comme ça, Karl Norak, et il y a aussi cette notion sur le temps qui passe dont je parlais dans Un jour sans montrer sa montre. Elle m'a dit, laisse le temps passer. C'est ce que nous avons fait longtemps. Nous avions si joyeusement bien plus d'une minute à perdre.
Oui, il faut savoir perdre son temps. Il est indispensable d'errer. Hein, et alors, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est assez symbolique, c'est que je pars dans la forêt, et c'est vrai que moi, j'ai passé mon enfance, mon adolescence dans une forêt, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris en marchant, j'ai besoin d'être dans le mouvement.
Ah, vous écrivez en marchant?
Oui, j'écris en marchant, ou dans les cafés, ou sur la digue d'Ostende. Ouais. Symboliquement, d'ailleurs, quand on regarde la fin du livre, on arrive sur une plage qui s'ouvre vers une sorte de page blanche absolue, mais qui est la mer du Nord.
Le livre de Karl Norak et de Anne Herbault, ce petit poème pour y aller, est paru aux éditions Pastel. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec le collectif originaire de Tahiti 1515. C'était un extrait de Tétiaré, la fleur en maori, interprété par les Tahitiens 1515. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Le Prince avec Thomas Langlin. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Alexandra Brouillet de France Inter. Avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, Edgar Morin sera dans la librairie francophone, entre autres. Soyez là. Merci pour votre fidélité. Bon week-end, bonne semaine.